Vous écoutez RTL.
RTL Midi.
Vincent Parisot, Christelle Robière.
Le tout info des auditeurs ont la parole avec vous, Vincent.
Oui, avec l'Europe, donc, qui tente aujourd'hui de trouver un accord sur les travailleurs détachés. Europe divisée sur la question. D'un côté, la France et l'Allemagne, avec le Benelux et l'Autriche. Contre le dumping social. De l'autre, l'Europe de l'Est, Pologne en tête, avec l'Espagne et le Portugal, partisans du statu quo. Sur le terrain, comment ça se traduit? Eh bien, on en parle avec vous au 3210. On est avec Jacques Chanul, président de la Fédération française du bâtiment. 3210, on vous attend. Le tiers payant généralisé chez le médecin a du plomb dans l'aile. C'était pourtant une mesure emblématique du quinquennat Hollande. Après la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui affirmait hier sur RTL que techniquement, c'est pas faisable au 1er décembre. Eh bien, l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, enfonce le clou ce matin dans son rapport. Objectif irréaliste, dit l'IGAS, en raison des contraintes techniques et d'une confiance trop fragile des professionnels. Deux propositions sont faites, le report à 2019 ou alors l'abandon pur et simple. Écoutez les réactions de Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français, avec Anaïs Bouissou.
C'est un grand soulagement. La Confédération des syndicats médicaux français le dit depuis le départ. Techniquement, le tiers payant n'est pas réalisable. Il y a plein d'erreurs. Les services chargés de faire le tiers payant ne sont pas au point. La carte vitale est quelquefois pas à jour. Quant aux assureurs complémentaires, n'en parlons pas. Elles sont extrêmement nombreuses. On ne va pas passer notre temps à vérifier la couverture de nos patients. On a autre chose à faire. Laissez-nous soigner nos patients.
Le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Sur le glyphosate, l'agent chimique du Roundup, Nicolas Hulot ne désarme pas. Mercredi, l'Union européenne doit se prononcer sur la réautorisation du glyphosate pour 10 ans. La France votera contre et le ministre de la Transition écologique a proposé ce matin sur RTL de limiter à 3 ans ce renouvellement. Le temps de regarder tout ce qu'on peut trouver en termes d'alternatives, dit-il. De leur côté, 54 députés En Marche demandent une interdiction le plus rapidement possible. Le début du procès d'une équipe de faux-monnayeurs démantelée fin 2014 à Marseille, réseau de faussaires spécialisé dans la production de billets de 50 euros d'excellente qualité et qui avait accumulé suffisamment de matériel pour en fabriquer et en écouler jusqu'à 8 millions d'euros. Un casse-tête pour le gouvernement. Comment payer la facture de 10 milliards provoquée par la décision du Conseil constitutionnel de retoquer la taxe de 3% sur les dividendes des grandes entreprises? Est-ce qu'il faut étaler ce paiement dans le temps ou contraindre ces mêmes entreprises à une contribution exceptionnelle? Écoutez ce qu'en dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire avec Christophe Ponzio.
Moins on étale, mieux c'est. Plus vite on se sort de cette situation, mieux c'est. La piste privilégiée, je ne vous le cache pas, ce sera une contribution exceptionnelle sur les plus grandes entreprises. Donc je vais consulter dès aujourd'hui, recevoir les chefs d'entreprise pour leur dire les solutions qui sont sur la table et essayer de trouver, je ne vais pas vous dire la meilleure, mais la moins mauvaise des solutions qui permettent à la France de retrouver le chemin de la réduction des déficits et de la dette.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Des nouvelles rassurantes venues de Corse sur le front de l'incendie en Balagne, parti hier matin de Ville di Parenzo. Dans un premier temps, on avait parlé de 2000 hectares. Et bien finalement, c'est moins. Et surtout, les flammes ne progressent plus. Bruno Guidini est le capitaine du CODIS de Haute-Corse.
La superficie a été revue à la baisse avec 1600 hectares. La situation évolue très favorablement puisque le feu n'évolue plus. Les conditions météo sont très favorables, le vent a baissé en intensité. Il y a eu des précipitations cette nuit, 150 hommes sur le terrain qui travaillent actuellement. Pas d'inquiétude, encore une fois, il n'y a pas de maison menacée et encore moins détruite.
À propos recueilli par Alice Moreno, la star Neymar en question après le nul de partout entre l'OM et le Paris Saint-Germain et l'expulsion du Brésilien hier soir. A-t-il perdu ses nerfs? Lui juge cette expulsion exagérée et injuste, mais estime que c'est ce que l'arbitre voulait. Et puis, comment l'alcool détruit la jeunesse? Ça, c'est le titre choc du livre du professeur Beniamina, qui sera l'invité d'RTL Midi, donc dans ce studio, dans 25 minutes. Il dénonce la puissance du lobby de l'alcool, ses actions en direction des jeunes, une trop grande tolérance française pour des raisons culturelles. Et il parle d'un transfert de certains jeunes du cannabis vers l'alcool. Ce serait lié, selon lui, à la multiplication des fêtes et des soirées, voire des cours d'œnologie dans les facs et les écoles après le bac. Alors, étudiants, parents, on attend vos témoignages dès maintenant au 3210.
L'histoire l'histoire du lundi, un jour sur la Terre. Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Bonjour.
On part aujourd'hui à Bordeaux avec une histoire de poudre blanche et de magie noire.
Oui, avec au commencement cette découverte qui n'a pourtant rien de diabolique, celle d'une sacoche oubliée dans une chambre d'hôtel. À l'intérieur, un peu plus de 10 000 euros en petites coupures. La PJ bordelaise va vite identifier les propriétaires. 4 Guyanais, 2 hommes, 2 femmes qui disent faire du tourisme dans la région, puis finissent par avouer. Ce sont des passeurs qui multiplient les trajets entre la Guyane et la métropole pour transporter, après les avoir ingurgités, des boulettes de cocaïne. Pour cela, ils affirment avoir un truc imparable. Ils sont invisibles. Les douaniers ne peuvent pas repérer leur silhouette et l'intérieur de leur corps est tout simplement indétectable, du jamais vu, sauf peut-être à la foire du trône. Pour parvenir à ce tour de force, ils racontent avoir reçu des bains de protection avant chaque voyage. C'était au Suriname, pays frontalier de la Guyane, dans la case d'un sorcier, spécialisé donc dans la transformation des êtres humains en hologrammes. Le sorcier a été arrêté et, sauf bain magique pris juste avant l'audience, le procès aura bien lieu en présence des accusés.
Un jour sur la Terre, à réécouter sur rtl.fr. Merci Alphonse.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Vincent Parisot.
Et on en revient à notre débat sur les travailleurs détachés. Nous sommes toujours avec Jacques Chanul, président de la Fédération française du bâtiment, et en ligne avec Liliane, qui gère une société du bâtiment à Poitiers. Les devis de vos concurrents espagnols, Liliane, ils sont inférieurs aux vôtres de combien à peu près ?
Que je vendais dans les 100-120 euros, eux le vendent 70 euros actuellement.
Voilà, donc vous ne pouvez pas lutter là.
J'ai abandonné complètement l'isolation par l'extérieur.
Ouais. Mais alors ce que nous disait tout à l'heure, et on va en reparler, ce que nous disait Jacques Chanu, il nous disait, c'est aux clients aussi de réagir. Est-ce que vous leur dites à ces clients que vous avez perdu, ok, vous allez travailler avec eux, mais sachez qu'ils sont dans l'illégalité la plus totale?
Après, je crois qu'il ne faut pas que les gens cherchent des prétextes de bonne conscience lorsqu'ils font travailler des entreprises dans ces conditions, ou carrément des gens noirs. L'exemple de Liliane est assez caractéristique. Je pense que dans l'isolation par l'extérieur, le coût main-d'œuvre doit être de 60 ou 70% du coût total. Oui. Donc si vous avez 25% d'écart, il n'y a qu'un seul poste où vous pouvez gagner de l'argent, entre guillemets, donc tricher, c'est bien la main-d'œuvre. Donc ce n'est pas une histoire de matériaux, là.
La question était d'ailleurs pour Liliane. Est-ce que lorsque vos clients vous disent, finalement, non, on ne va pas faire affaire parce que les autres à côté me font 30% moins cher, est-ce que vous leur dites, oui, mais attention, ils sont dans l'illégalité?
Mais attendez, mes clients, je travaille à 99% en appel d'offres.
Public.
Ah oui.
Donc c'est encore plus grave, Liliane.
Ça, c'est encore plus intéressant ce que vous nous dites, Liliane.
Alors attendez, je vais vous raconter une histoire extraordinaire.
Réalisez.
J'ai moi aussi eu besoin de main-d'œuvre à un moment et j'ai fait appel à une société qui était sur Paris pour avoir de la main-d'œuvre.
Ouais.
J'avais fait ce qu'on appelle un DC4, une déclaration de sous-traitance, ce qui est tout à fait légal et officiel, en demandant toutes les attestations d'URSSAF, d'ASIEDIX, etc. En plus, pour me protéger, j'avais demandé toutes les cartes d'identité aux personnes qui étaient venues sur le chantier. J'ai été convoquée un matin de bonne heure à la police de Poitiers, parce que c'était des étrangers et c'était des clandestins. Je suis arrivée avec tous mes dossiers de déclaration et c'était en plus le département qui avait accepté cette sous-traitance. À la police, on m'a demandé qui est cette personne. Et en fin de compte, je reprenais mes cartes d'identité et on me disait au fur et à mesure, non, c'est pas lui, c'est son frère.
Ah oui, c'était des faux papiers, des fausses cartes d'identité, enfin celles d'un frère ou d'un cousin.
Voilà, absolument. Mais comment voulez-vous qu'on arrive à valider l'identité d'une personne? C'était impossible.
Bien sûr, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les fichiers. Restez avec nous, parce que on a en ligne le gérant d'une société de bâtiment qui fait appel à des travailleurs détachés en France. C'est Philippe qui nous appelle de Saône-et-Loire. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Dites-nous comment ça se passe.
Eh ben alors voilà, il y a 7-8 ans, j'ai dû passer sur votre antenne pour vous dire qu'on avait énormément de travail et qu'on ne trouvait pas de personnel. Donc j'avais dit que le jour où je prenais le temps, j'allais dans les pays de l'Est ramener du personnel. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé un artisan qui était le même métier que moi.
Dans quel pays ?
En Hongrie.
Oui, En Hongrie,
et
oui.
on s'entraide, et voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. Oui. Mm-hmm. Parce que le gros problème en France, je crois, c'est de trouver du personnel. C'est pas le doping social. Mm. Vous savez, nous, moi, mon entreprise, je suis barbé avec des avocats, tout ça, pour faire tous les papiers en règle. On fait ça avec l'inspection du travail. On est bardé de chez bardé pour pas avoir de problème.
Alors, restez bien, parce qu'on a en plus là, pour le coup, on a le président de la Fédération du bâtiment, donc il va vous répondre. Philippe nous dit en substance, moi, si je fais appel à des travailleurs détachés, c'est parce que moi, je ne trouve pas de salariés en France qui veuillent faire ce travail.
Il y a deux choses, hein. Je crois que Philippe le rappelle, et c'est important, c'est que nous luttons contre la fraude au détachement. On ne fait pas une chasse, chasse aux détachés. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, Philippe, qui, donc, lui dit qu'il fait les choses tout à fait dans les règles parce qu'il trouve pas, je sais pas quel est son métier, mais dans sa spécialité des compagnons formés, hein, parce que c'est à mon avis le sujet, là c'est inattaquable. Mmh. La vraie question en parallèle qu'il pose, c'est pourquoi on ne trouve personne, et ça c'est quand même, me semble-t-il, une question générale que notre secteur doit continuer de se poser. Mmh. Ces dernières années, on a perdu 150 000 salariés dans nos entreprises. L'activité commence à reprendre juste un tout petit peu. Mmh. Il y a des milliers de gens qui sont encore inscrits à Pôle emploi sous l'étiquette bâtiment. Et pourtant, c'est une réalité. Mmh. Dans beaucoup de départements, on ne retrouve plus des ouvriers qui veulent venir dans nos boîtes. Donc, c'est un sujet.
Ces salariés hongrois, Philippe, vous les faites travailler combien de jours par semaine et combien d'heures?
Ah ben, ils travaillent 5 jours par semaine, ils font les heures comme nous, 39 heures. Mmh. 39 heures, et tout est déclaré, ils ont une carte PTP, ils ont tout ça. Mais c'est pas spécifique au bâtiment, hein. Mmh. Vous savez, on fait beaucoup de déplacements, vous allez dans les hôtels.
Ah oui, l'hôtellerie est un des secteurs où effectivement il y a beaucoup de travailleurs détachés. Non, mais vous avez raison, Philippe. On parle souvent du bâtiment parce que c'est ce qu'il y a de plus évident, mais il y en a aussi beaucoup dans l'agriculture, l'agroalimentaire, dans l'hôtellerie, et dans l'industrie. Vous pouvez rester avec nous, Philippe, si vous le souhaitez. On poursuit cette très intéressante conversation avec vous tous au 32-10 dans quelques secondes.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Et vous, au 32-10, on échange, on va parler de l'alcool et des jeunes. Comment l'alcool détruit la jeunesse? Le titre est fort, c'est celui du livre du professeur Beniamina qui sera avec nous tout à l'heure sur RTL. Il dénonce effectivement une forme de laxisme, la puissance du lobby de l'alcool et une tolérance française qui serait culturelle et qui se retrouve par exemple notamment dans les fêtes, les soirées qui sont organisées dans les écoles après le bac, dans les facultés, auprès des élèves et qui sont de vrais tremplins vers l'alcoolisme. C'est ce qu'il nous dira tout à l'heure. Et on attend évidemment vos témoignages dès maintenant, hein, au 32-10.
En attendant, nous sommes toujours avec Jacques Chanul, président de la Fédération française du bâtiment, pour évoquer le problème des travailleurs détachés. Et avec Philippe, qui nous appelle de Saône-et-Loire et qui nous disait tout à l'heure, avant la pub, qu'il employait des travailleurs détachés qui viennent de Hongrie. Philippe, pourquoi vous ne finissez pas par les embaucher, ces gens-là?
Parce que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué d'embaucher ces gens. Et ils ont une vie de famille qui sont chez eux aussi. Là. Ouais. Ils ne veulent pas venir.
Ils ne veulent pas venir. C'est compliqué, non. Ou ils ne veulent pas venir?
Je pense qu'ils ne veulent pas venir.
Mmh. Et l'argent qu'ils gagnent finalement en France, donc ils le dépensent chez eux. En ce qui vous concerne, c'est... je ne sais plus.
J'ai un métier un peu spécial, mais moi aussi, je vais travailler en Suisse, je vais travailler en Italie. Mmh. Et mon argent, je le dépense en France et dans les hôtels en Italie, dans les hôtels en Suisse et dans les restaurants. Mmh. Mais je vous dis, pour moi, c'est sûr qu'il y a de la fraude.
Le problème, c'est la fraude, et on le rappelait, hein, le problème n'est pas la question du travail détaché, le problème, c'est la fraude.
Le problème, c'est qu'on met tout le monde dans le même sac.
Absolument.
Mmh. Et je vous dis, moi, ça fait déjà 8 ans que j'en parle. Ça fait 8 ans. Et puis, on réagit 8 ans après. Et Il n'y a pas que nous dans le même corps. Regardez les bateaux à Saint-Nazaire. Mmh. Ils emploient de la main-d'œuvre étrangère aussi.
C'est vrai.
Mais est-ce que vous avez été contrôlé récemment, Philippe?
Ah oui, j'ai été contrôlé. Ah. J'ai été tapé sur les doigts, un grand coup sur les doigts, parce que je n'avais pas rempli les bons papiers. Parce que la loi a changé à partir du 1er juillet, et il y a eu un contrôle local.
Ah oui.
Voilà. Donc on m'a mis un grand coup de claque derrière les oreilles. Monsieur, vous n'avez pas rempli les bons papiers. Si, il est là, et voilà, et voilà. Mmh. Donc on ne vous explique pas. Peut-être que j'ai fait une faute. Mmh. On a mal
en
rempli,
tout cas, il y a
pas...
des contrôles. Hein. Vous qui disiez qu'il faut lutter contre la fraude. Au moins, il y en a de plus en plus.
Mais surtout qu'on a toujours déclaré ça à l'inspection du travail. Mmh. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, donc, ils savaient où nous trouver, puisqu'on déclarait. Donc, et, je vous dis, la solution, à mon avis, c'est soit on remet les gens au travail, soit je sais pas, il faut trouver une solution pour que la France avance.
Il faut peut-être mieux les former aussi, tous ces travailleurs-là, Jacques Chanu.
Ah, mais on les a... former, on forme les gens. On forme les gens, mais du jour au lendemain, ça se trouve, ils vous claquent dans les doigts. Ils partent parce qu'il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas.
Ouais. Jacques Chanu.
Oui, je crois que c'est un tout. Hein, et le témoignage de Philippe est très intéressant pour ça. Au moment où on va rediscuter de l'assurance chômage et également de la réforme de la formation, on voit bien que le détachement a été une des réponses en fait, aux difficultés que quelques-uns ont pu rencontrer aussi pour trouver du personnel qualifié sur des métiers très spécifiques. Je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on n'est pas seul en France. Qu'effectivement des règles européennes existent, qu'il faut certes combattre les fraudes, mais il faut aussi que nous, on se mette en situation de donner envie à nos artisans et à nos entrepreneurs de faire, c'est pas cet effort, mais cette démarche de l'embauche et de la formation, mais aussi faire en sorte que les gens qui aujourd'hui sont inscrits dans nos métiers au chômage et qui n'acceptent pas un certain nombre de postes, ça veut dire peut-être qu'ils ne sont plus performant sur le métier et qu'il faut qu'il se reforme et en tout cas qu'il n'y ait pas ces allées et venues réguliers entre Pôle emploi et un chantier. Je crois que le problème des droits rechargeables est aussi un sujet. On a besoin c'est important parce qu'on a besoin de constance dans une relation avec nos ouvriers et avec nos collaborateurs. Et donc c'est un sujet, je crois, le détachement qui va avec le sujet de la formation mais aussi de l'assurance chômage.
Et Jacques Chanu,
je reviendrai en parler.
Mais bien sûr. On va faire un tour du côté de Nanterre avec Gonzalo. Qui a une petite boîte de rénovation, c'est ça Gonzalo ?
Oui, c'est ça. Oui.
Bonjour,
bienvenue.
Bonjour.
Alors vous, c'est le principe même des travailleurs détachés qui vous énerve ?
Oui, moi je dis qu'à court terme, je comprends ce que l'intervenant précédent a fait, d'en prendre, mais c'est se tirer une balle dans le pied. Je pense que si on regarde à long terme, il faut faire ce que les grands politiques nous avaient promis, l'harmonisation sociale et fiscale, parce que ce qu'on fait quand on prend des travailleurs détachés, et, bah, c'est qu'on se tire une balle dans le pied. Il y a du travail en France très peu, et on va aller chercher des gens qui sont exploités dans leur pays avec des salaires très bas. Ça, c'est presque de l'esclavage moderne, parce que comme je disais tout à l'heure, ils viennent ici, ils sont dans des conditions, il ne l'a pas évoqué, mais souvent... scandaleuse au point de vue logement.
Logement, voilà, c'est ça. Il y en a qui dorment dans des camionnettes.
Mais absolument,
quand même.
Mais il y a raison.
Et moi, je me rappelle, puisque j'ai 59 ans, ça peut être une antenne, mais je prends de le dire. J'ai connu des chantiers où on faisait des chantiers de la même taille qu'aujourd'hui avec 10 bungalows, et aujourd'hui, il y a des bungalows, ils en font 50 et 100. Et les grands majors sont, sont les grands pourvoyeurs, les grands aspirateurs plutôt de ces main-d'œuvre. Ouais. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Ouais. Je suis effectivement, et c'est pour ça que j'interviens dans l'émission, scandalisé que les politiques ne fasse que des déclarations, alors que nous avons fait une grande promesse à tous les Européens de faire une Europe en commençant par le social et fiscal. Et qu'est-ce qu'on fait ? On le maintient parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile d'avoir une usine en Tchéquie à fabriquer des voitures. Alors là, je ne parle pas de bâtiments. Et ça coûte beaucoup moins cher de payer les ouvriers à 400 euros le SMIC et les faire venir avec 3 heures de transport que les faire venir de Chine ou d'ailleurs avec des coûts de transport.
Mais à terme, évidemment, à terme,
de toute manière.
À terme, ça pose
Jacques
question.
Chanu, pour conclure, la France souhaiterait que cette réforme de la directive européenne s'applique dans les 2 ans après son adoption. Si adoption il y a dès maintenant, la Commission propose déjà 3 ans. Vous pensez que ça arrivera quand, au fond ?
Non, je pense que le temps de la négociation va être forcément un peu long. C'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher le temps court des contrôles. Et je crois qu'il ne faut pas également se faire trop d'illusions sur le fait qu'une évolution législative au niveau de la direction, de toute façon, sa mise en œuvre, elle aussi, ça a été montré, demandera du temps pour se l'approprier. Donc c'est très bien d'en parler. Je crois que contrairement à ce qu'a dit mon confrère tout à l'heure, les choses avancent. On est passé d'une hypocrisie totale il y a 5 ans, aujourd'hui un certain nombre de mesures, et il faut que cela continue. En tout cas, la Fédération française du bâtiment souhaite y participer pour retrouver un modèle économique et social apaisé et profitable dans le bâtiment.
Et ce sera le mot de la fin. Merci Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment. Merci d'avoir dialogué avec Gonzalo. On a eu Philippe aussi et Liliane qui ont témoigné sur RTL.
Bon, on va marquer une courte pause. Dans quelques minutes, on va parler de l'alcool et des jeunes avec le président de la Fédération française d'addictologie, le professeur Beniamina, qui sera avec nous. Mais avant cela, et juste après la pause, un mot des vacances. Alors, les vacances, c'est bien, Christelle, d'autant que moi, ça me permet de venir vous voir. J'adore ça. Mais elles sont un peu longues quand même. Hein. 15 jours d'entrée à la Toussaint, c'est un peu longuet, disent certains. Par exemple, Marc, qui sera en ligne avec nous dans un instant. À tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Les vacances scolaires de la Toussaint sont-elles trop longues? C'est la question du jour sur RTL.fr. Vous êtes 69% à nous dire oui, 25% seulement à penser le contraire. Et parmi les oui, il y a Marc qui nous appelle du Finistère. Bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Bonjour Marc.
Soyez le bienvenu.
Vous avez une fille qui est en troisième. Je ne suis pas sûr que votre fille pense comme vous, parce que les vacances, elle doit apprécier. Hein.
C'est sûr, elle ne pense pas comme moi, c'est certain.
Mais vous, vous trouvez que c'est trop long?
Alors moi, je trouve que c'est trop long, hein. Ouais. Alors pour les occuper déjà 15 jours, bon, première semaine, ça va, ils peuvent se reposer. Bon, la deuxième, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Et puis par rapport, je trouve, aux vacances, notamment la période d'été où ils finissent. Alors moi, je suis parti en vacances avec mon épouse début juillet. Il est toujours court.
Ouais.
Bon, il rogne de plus en plus l'été et il rallonge après. Moi, c'est une période, c'est l'hiver. Il n'y a que 7 semaines qu'ils ont repris l'école.
Alors voilà, c'est ça le rythme. C'est ça. Le rythme, c'est 7 semaines de travail, 2 semaines de repos. 7 semaines de travail, 2 semaines de repos. Vous dites, bon, c'est un rythme qui est très confortable. C'est ça ce que vous voulez nous dire, Marc?
Ah oui, complètement. Ouais.
Ouais. Et il n'y a pas si longtemps, Marc, souvenez-vous, il y a peut-être 3-4 ans, c'était 10 jours de vacances seulement à la Toussaint.
Et on ne va pas jouer les anciens combattants, mais on a connu Christelle une semaine. C'était une semaine à la Toussaint.
Non, mais il n'y a pas si longtemps, c'était 10 jours. Ça, c'était évidemment plus convenable pour vous, Marc.
Je trouve, oui. 10 jours, c'était plus...
Donc les vacances, c'est trop long et au fond, ça ne sert pas à grand-chose, c'est ça que vous voulez dire? Les enfants finissent par s'ennuyer?
Ah oui, franchement, et puis, au mois de novembre, à la Toussaint, je veux dire, moi je suis artisan, ma femme travaille dans le commerce, on n'a jamais de vacances à cette période-là.
Eh oui, bien sûr.
À la limite, si on voulait partir une semaine, bon, ce serait sympa, mais on ne part jamais. La plupart des gens, c'est très rare. Hein. Bon, après, évidemment, l'éducation nationale, ils ont les vacances, mais dans le commerce...
La France tourne, hein, la Toussaint. C'est pas comme à Noël évidemment, pendant l'été. La France tourne à 100%, effectivement, dans les vacances de Toussaint. Donc, elle fait quoi, votre fille, pendant ces 15 jours, Marc?
Alors, elle fait quoi? Elle révise un petit peu, j'espère.
Oh, c'est déjà pas mal.
Vérifier, si je vérifie quand même un peu le soir.
C'est déjà pas mal.
Après, c'est du repos, bien évidemment, quoi. Du repos, mais bon, je pense que franchement, 10 jours, c'était largement.
C'était suffisant. Restez avec nous, Marc, si vous le souhaitez. Figurez-vous que vous n'êtes pas le seul à avoir un commentaire à faire sur ce thème. Laurent Tessier, il y a beaucoup de messages sur notre page Facebook, les auditeurs.
Les avis sont différents de vous, Marc. C'est non pour Virginie quand on voit l'état de nos enfants avant ses congés. Même avis pour Petit Fab, les vacances scolaires de la Toussaint sont trop longues. La rentrée a eu lieu il y a un mois et demi. Les vacances de Noël seront dans autant de temps. 15 jours de repos sont quand même allés nécessaires. Alain, lui, justifie ses longues vacances par les organismes fatigué, le changement d'heure, l'heure qui arrive et qu'on ne nous parle pas des problèmes de garde. Logiquement, une mère ou un père devrait s'adapter et être à la maison pour s'occuper des enfants. Pour Jean-Luc, ce sont de toute façon les professionnels du tourisme qui tiennent les ficelles. Mais pour Agnès, un changement de rythme toutes les 7 semaines, c'est compliqué. J'ai un fils de 16 ans qui, comme beaucoup d'ados, se réveille très tard. Quand vient la rentrée, la réadaptation est très compliquée.
Bon, vous pouvez continuer à réagir si vous le souhaitez au 3210 ou sur notre page Facebook. Merci Laurent.
Allez, on va marquer une pause et puis on accueille dans quelques instants le professeur Amine Benyamina, psychiatre, président de la Fédération française d'addictologie. Et il vient de publier aux éditions Albin Michel un livre dont le titre parle de lui-même. On va l'évoquer avec lui et avec vous au 3210, comment l'alcool détruit la jeunesse. A tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Deuxième invité des auditeurs ont la parole, le professeur Amine Benyamina, psychiatre et président de la Fédération française d'addictologie. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions Albin Michel « Comment l'alcool détruit la jeunesse » et en sous-titre « La responsabilité des lobbies et des politiques ». Évidemment, ce titre fait froid dans le dos. Pourquoi vous lancez aujourd'hui un cri d'alarme?
C'est parce que l'alcool est actuellement la drogue licite la plus consommée par les jeunes et la plus accessible et la moins chère. Et qui n'engage pas finalement des problématiques de type judiciaire. Mmh. Vous sortez dans n'importe quel coin de France, entre les villes, il y a les autoroutes, vous avez de l'alcool partout. Mmh. Et il y a très peu de questionnements sur la problématique liée à l'alcool. Si, on se questionne lorsqu'une personne est ivre morte ou elle a un vrai problème, elle est alcoolique identifiée. Il ne faut pas être médecin pour s'en rendre compte.
Mais pourquoi la jeunesse ? Pourquoi vous parlez de la jeunesse particulièrement aujourd'hui ?
C'est parce qu'actuellement, la jeunesse est ciblée. Mmh. Elle est ciblée directement ou indirectement. Le contact le premier verre se fait très tôt. Mmh. On a un marché...
De plus en plus tôt,
de plus en plus tôt, de 12-13 ans. Premier contact. On a un marché qui s'est organisé pour changer la perception et le goût de l'alcool. Mmh. Il est plus sucré, il est plus coloré. Il est porteur de jeunesse, de dynamisme.
C'est ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, les prémix, effectivement.
On a eu quand même le rosé sucette cet été. Mmh, ouais. Et donc, on cible très clairement les femmes, les jeunes. Pourquoi ? Parce que derrière l'alcool, il y a une industrie qui n'a pas de cœur sur le plan, qui n'a pas d'engagement sur le plan de santé publique, elle, et qui veut augmenter son profit de manière assez cynique.
Vous dénoncez les soirées étudiantes qui se multiplient dans les écoles post-bac, dans les facs, etc.
Oui, les soirées étudiantes qui, pendant très longtemps, étaient financées. Mmh. Le bizutage, le reniement vis-à-vis d'un certain nombre d'engagements. Je dénonce aussi la manière avec laquelle, en 20 ans, on a détricoté une loi qui n'avait pas pour objet d'abattre la filière viticole, mais de protéger les personnes vulnérables.
Mmh. Je vous présente Laurence, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Laurence.
Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Le professeur parlait de soirée étudiante à l'instant. Parlez-nous de votre fils.
Alors, oui, c'est difficile pour moi d'en parler. Donc, je suis maman d'un garçon qui a 17 ans et demi et qui a intégré en septembre une école d'ingénieur. Oui. J'en suis encore toute émotive. Oui. Et donc, il y a 3 semaines, il a participé à sa première soirée étudiante. Et ça s'est terminé par un coup de téléphone à 3h du matin des urgences. Notre garçon avait été retrouvé en coma éthylique par la police municipale de Toulouse, sur un coin bien connu de Toulouse. Voilà. Et donc, il a été retrouvé, en fait. Il ne s'est réveillé qu'à 6h du matin avec un taux d'alcoolémie de 2,30 g dans le sang. C'est un garçon très sportif.
Il avait déjà été en contact avec l'alcool auparavant ou pas,
non,
Laurence ?
Jamais. Il a fallu qu'il arrive en école d'ingénieur pour faire sa première découverte. Ouais. Il ne savait pas du tout à quoi il s'attendait, je pense. Ouais. Et donc, voilà le résultat pour un contact avec école d'ingénieurs.
Ce qu'on entend, professeur, c'est que c'est devenu un rite, presque un rite de passage, désormais.
Absolument, c'est tout sauf un cas isolé. On a une initiation à l'alcool à des périodes précises, de l'école au collège, du collège au lycée, et puis du lycée aux études supérieures. Et là, on est sur un rite de passage nouveau. Finalement, il n'y a plus l'armée, il n'y a plus un certain nombre de choses. Et il faut passer par là. Et le fait de refuser ou bien de se différencier par rapport au groupe des pairs, P-A-I-R-S, eh ben, vous met un peu en exergue, vous met un peu plutôt à l'écart. Allez. C'est une réalité absolue. Ouais.
Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre fils, Laurence, après ?
Une grande honte. Une grande honte, parce qu'il ne pensait pas que ça pouvait avoir un tel effet. Il ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre... 3h du matin qu'on nous a appelé, entre en fait minuit et demi et 6h du matin, l'heure à laquelle il s'est réveillé. Et j'espère
mais est-ce
que
qu'il vous
ça
a dit excusez-moi de vous interrompre Laurence, mais est-ce qu'il vous a dit, pardon, comme l'évoquait à l'instant le professeur Beniamina, d'une certaine manière je suis obligé de boire parce que si je bois pas et ben voilà, finalement
il était avec un groupe donc il s'est retrouvé emporté et puis voilà. Ça a été de la bière, ça a été du Ricard, ça a été du punch, et puis voilà. Et puis après, le trou noir. Voilà.
Face au binge drinking, professeur Beniamina, qu'est-ce qu'on dit aux parents et que doivent dire les parents à leurs enfants ?
Ben, c'est difficile parce que j'ai une position pas agréable. Je suis un empêcheur de jouir et d'une certaine manière, c'est pas la posture qui est la mienne. On tire une sonnette d'alarme parce qu'il y a quelque chose de nouveau. On a industrialisé ce rapport à la transgression qui est un rapport normal à cette période de la vie. Simplement, il faut pas faire l'expérience de la mort. On n'y revient pas. Donc c'est un peu ça. Donc dire ce qui se passe, dire que derrière ça, c'est pas un fait du hasard. Il y a toute une machinerie organisée. Il y a toute une complicité de fait des politiques avec des industriels transnationaux et que clairement, on est en train de cibler avec un système qui n'est pas qui est un système qui est très, très insidieux. L'éducation au goût, la modération, la responsabilité. On aide pour que, évidemment, on cible tous les grands consommateurs. Mais on oublie que pour devenir un grand consommateur, on a été un expérimentateur, un jouisseur. Et que c'est dans cette période, dans cette phase, qu'il faut faire de la prévention. Et que la prévention dépend des parents, dépend des professionnels de santé et des politiques. Une fois pour toutes.
Et dans un instant, on sera avec Jean-Baptiste qui nous appelle du Jura. Il va nous raconter comment, à 17 ans, il a commencé à toucher à l'alcool et comment il est devenu rapidement alcoolique. A tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Avec vous au 3210 et on aura Jean-Baptiste dans un instant. Nous sommes avec le professeur Amine Benyamina qui publie un livre chez Albin Michel intitulé « Comment l'alcool détruit la jeunesse ». Vous parlez de la responsabilité des politiques qui ont, c'est vrai, on le rappelle, en partie... détricoter la loi Evin, c'est ça ?
La loi Evin, ça fait 20 ans à peu près qu'elle est détricotée régulièrement.
On rappelle ce que c'est, elle encadre la publicité sur l'alcool.
La publicité, puis un certain nombre de... Et puis quelque part, c'est une manière, et c'est pas quelque part, c'est la réalité, c'est l'essence même de cette loi, c'est de protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger d'eux-mêmes. Mmh. Donc on n'a pas... on n'interdit pas de consommer, mais on protège les gens vulnérables. Et ça fait 20 ans qu'on la détricote. Et le dernier épisode, c'était probablement... Non, c'est cet épisode qui m'a un peu incité avec Marie-Pierre Samitier à faire ce livre. C'est lorsque, de manière cynique, on a accepté la publicité dans l'alcool et qu'on a organisé le vote contre l'avis de à l'époque, elle témoigne d'ailleurs dans le livre, Catherine Lemortant qui est présente du groupe social, et on a d'une certaine manière été hypocritement en train de dire oui, on continue à protéger. Voilà des épisodes qui font qu'à un moment donné, on se retrouve à avoir une publicité directe et indirecte, et on cible toujours, on cible les mêmes, parce que les personnes d'âge mûr, les hommes d'âge mûr consomment, on n'a pas besoin de leur faire de la publicité. En revanche, il faut renouveler le stock, il faut renouveler les profits, on va voir les femmes, les jeunes, et on adapte le goût.
Eh ben, je vous propose de dialoguer avec Jean-Baptiste qui nous appelle du Jura. Bonjour Jean-Baptiste.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous avez commencé à boire à l'âge de 17 ans, c'est ça ?
Non, il y a 7 ans.
Pardonnez-moi, c'était mal écrit sur ma fiche.
Il y a 7 ans, donc vous aviez à peu près 28 ans.
Oui, tout à fait.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je me fais soigner.
Oui.
Je suis suivi par un addictologue, je suis suivi par mes parents aussi, par ma compagne, par mes enfants. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très, 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 très dur d'arrêter.
Comment vous êtes entré dans l'alcoolisme, on va dire ?
Alors, je pense que c'est des angoisses.
Oui.
Très petit, j'avais des angoisses, peur de la mort, peur de tout ça. Et en fait, j'ai eu une première relation où j'ai eu un enfant... Une deuxième relation où j'ai eu ma fille.
Oui.
Et là, ça a été très dur parce que, en fait, je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire.
Non, bien sûr. Et puis surtout, effectivement, puis je pense que chacun a des causes. Les causes sont diverses. En revanche, moi, je retiens une chose que vous dites, c'est très, très dur difficile. D'arrêter.
Oui, arrêter, oui, c'est très dur.
Vous en êtes où aujourd'hui, Jean-Baptiste ?
Alors aujourd'hui, j'en suis à être suivi. Pour être sincère avec vous, je buvais une bouteille de whisky par jour. Aujourd'hui, je ne bois plus de whisky du tout.
Ouais.
Et j'en suis à deux verres de vin par jour.
Ah bah, je pense que c'est quand même...
Beaucoup mieux.
Beaucoup.
C'est très bien. Bravo.
Bravo, oui. Et ça, grâce... Vous avez été entouré pour ça ?
Ah, j'ai été très entouré.
Ouais.
Surtout par mon papa, Philippe.
Ouais.
Par ma maman, Chantal. Par mes frères et sœurs. Par ma compagne, Christelle. Alors, tout le monde m'a entouré. Tout le monde a fait en sorte que je puisse m'en sortir. Et je crois que c'est grâce à ça aujourd'hui que je peux m'en sortir.
On entend votre émotion, Jean-Baptiste. C'est vrai qu'on n'imagine pas, professeur Benyamina, à quel point c'est extrêmement difficile d'en sortir.
C'est très compliqué. Alors, j'ai pas envie de faire peur aux auditeurs d'RTL. C'est pas simple de devenir indépendant d'alcool. Il faut une personne avec ses vulnérabilités, ses fragilités, un environnement... C'est sur ça que moi j'ai écrit ce bouquin, c'est-à-dire les politiques, l'offre, la prévention et un milieu. C'est tout ça.
Mais on peut tomber dans l'alcoolisme en étant adolescent.
On peut parfaitement.
On n'est pas du tout préservé.
Mais bien sûr que non. On peut tomber dans l'alcool et on devient alcoolique plus tard.
Ouais. Ouais, je voudrais qu'on donne la parole à Yves qui intervient dans des collèges. Bonjour Yves.
Bonjour Christelle, bonjour Vincent.
Bonjour. Enfin,
je dois dire que je deviens un habitué de l'émission puisque j'en serai à ma troisième intervention.
Ah bah écoutez, vous allez avoir une carte de fidélité bientôt, on va vous la tamponner.
Oui, et bonjour professeur, parce que bon, oui. ce que décrit le professeur est hélas une réalité. Bon, moi pour vous situer, je suis au niveau de la prévention routière, donc j'interviens dans les collèges. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons un module qui s'appelle « Alcool, cannabis et conduite ». Je pense que le titre est évocateur à lui tout seul.
C'est sûr.
Bien. Il faut savoir que ce module était à l'origine destiné aux élèves des universités, des facultés. Ensuite, il est descendu au niveau des lycées et maintenant, il est présenté au niveau des collèges. Pendant longtemps, c'était les troisièmes. Maintenant, on me demande de le présenter devant les classes de quatrièmes, autrement dit des gosses de 14 ans.
Des gosses de 14 ans qui boivent...
Absolument, et qui se droguent aussi. Ouais. Il faut pas se voiler la face. Alors, là, je suis tout à fait d'accord avec les inquiétudes formulées par le professeur. Bon, bien entendu, l'éducation nationale n'est pas responsable de cet état de fait. Nous sommes bien d'accord.
Ouais. Mais comment vous vous rendez compte qu'ils boivent? Ils vous le disent?
Oui, on discute en aparté, ils me le disent. Il y a aussi des cas qui sont rapportés par les chefs d'établissement, notamment un cas qui m'avait beaucoup frappé, et c'était au mois de mars de l'année dernière. C'était une élève de 6e, j'ai bien dit de 6e, donc il devait avoir 11 ans. Il s'est présenté le matin à 8h30 en état d'ébriété dans ce collège. Voilà. Ouais. Alors évidemment, c'est un cas ultra bien minoritaire. Sûr, mais sachez que pour les gosses de 3e, ils ont une expression qui s'appelle « prendre une tige », c'est-à-dire se saouler. Et vous en avez sur une classe, vous avez pratiquement, je vais dire, 20% des gamins qui régulièrement tâtent de l'alcool, notamment, et vous l'avez parfaitement souligné avec les prémix et les alcopop, hein, c'est le même type de boisson, c'est-à-dire des jus de fruits ou des sodas dans lesquels on a rajouté de l'alcool. Ouais. Moi, j'ai beau les mettre en garde, mais... le phénomène est là.
CQFD, vous disiez en entendant
absolument.
Les propos de Yves.
Juste un mot qui a été énoncé, c'est l'éducation nationale n'est pas responsable, mais elle jouera un rôle important pour sortir de là.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci professeur Beniamina d'avoir dialogué avec les auditeurs d'RTL. On remercie Yves et Jean-Baptiste et Laurence qui avaient fait le 32-10. On fait une petite pause et puis on va rire un peu.
Ah ben je veux bien.
Sans modération.
Vous écoutez RTL.